Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur BFM TV. Officiellement, ce n'est pas lui qui mène la campagne, mais ça y ressemble décidément beaucoup. Emmanuel Macron continue de s'adresser quotidiennement aux Français à 6 jours du premier tour des élections législatives. Aujourd'hui, le président s'est exprimé sur le podcast Génération Do It Yourself, une interview disponible sur les principales plateformes audio. Le chef de l'État est revenu cette fois-ci et a insisté notamment sur un risque de guerre civile dans notre pays. On l'écoute.
Si on va au bout de votre raisonnement, le pays explose ou c'est la guerre civile. Et c'est ça mon grand désaccord avec les deux extrêmes et ceux qui les suivent. Et c'est aussi ce sur quoi je voudrais alerter les gens. Beaucoup de nos compatriotes, pourquoi ils vont vers des extrêmes? Parce qu'ils ont souvent une colère ou quelque chose auquel on ne répond pas. Il y a beaucoup de gens qui vont voter pour l'extrême droite parce qu'il y a une insécurité du quotidien, parce qu'il y a une immigration qu'ils considèrent comme n'étant pas réglée, et ils se disent « on ne les a pas essayés ». Et au fond, eux, là, ça fait 7 ans qu'ils sont là, on va essayer ailleurs. Cela, je veux leur dire, message reçu. Et je pense qu'il faut qu'on aille beaucoup plus vite, beaucoup plus fort sur l'insécurité, c'est clair.
Alexis Isard pour le Parti Renaissance et Charles Sapin du journal Le Point sont donc restés avec nous. Et nous sommes rejoints par Sylvain Bourmeau qui est directeur du quotidien AOC, analyse, opinion, critique. On vous retrouve bien entendu sur France Culture pour votre émission La Suite dans les idées. Amandine Atalaya, éditorialiste politique de BFM TV. Il a prononcé le terme de guerre civile 4 fois, Sylvain Bourmeau, le président ce soir. D'abord, est-ce que vous estimez qu'elle est possible, cette guerre civile? Et si ce n'est pas le cas, à quoi joue-t-il?
Je me pose la question, à quoi joue-t-il? Parce qu'en effet, c'est une expression qu'il faut manier avec prudence, oui. Pour le moins. Entendre Emmanuel Macron s'interroger de la sorte, alors même que le journal Le Monde rapportait il y a quelques jours sa confidence à un grand patron à Oradour-sur-Glane, oui. Cette grenade dégoupillée qu'il aurait lâchée dans les jambes en décidant de dissoudre. On se demande vraiment, effectivement, à quoi il joue. C'est-à-dire que il faudrait prendre le temps de regarder l'expression « guerre civile », qu'il l'a utilisée ces dernières années, avec quelle idée derrière la tête. Il me semble que c'est beaucoup des gens de droite dure, aux États-Unis, par exemple, plutôt du côté des Trumpistes. Il y a là quelque chose de très troublant de la part d'Emmanuel, oui. Macron, qui s'est construit en rempart au Rassemblement National, en fait, oui. Qui a été élu par 2 fois avec cette position politique, et qui tend à Oradour qu'après, sur l'île de Sein, le 18 juin, oui. Vient parler avec les mots du Rassemblement National, là, sur cette île où des gens ont gagné la Grande-Bretagne pour entrer dans la résistance. Il y a vraiment des choses étranges, manier des symboles étranges. On se demande ce que prépare Emmanuel Macron. Est-ce qu'il prépare la suite, l'éventualité de devoir composer et partager le pouvoir avec le Rassemblement National dans sa fonction, c'est-à-dire celle de président de la République, avec un gouvernement d'extrême droite. J'en viens de plus en plus à me poser la question.
En tout cas, on espère qu'il ne nous prépare pas à une guerre civile réelle. Amandine Atalaya, en tout cas, le terme est employé 4 fois, je le rappelle, au moins, et il est fait sciemment. C'est-à-dire que c'est parfaitement assumé par le président de la République. Ça ne lui échappe pas.
Ça ne lui échappe pas, mais ça reste incompréhensible. Et voudrait-il le pire qu'il ne s'y prendrait pas autrement aujourd'hui Emmanuel Macron, c'est quand même ce que beaucoup se disent ce soir. Rien ne va dans cette déclaration. D'abord parce que ça convainc qui voudrait aujourd'hui voter pour le Rassemblement National ou la gauche, ce type d'argument, absolument personne. Deuxièmement, si Emmanuel Macron pensait un instant que la guerre civile était possible réellement, alors pourquoi a-t-il pris le risque? Enfin, c'est quand même montrer, le cas échéant, très peu de considération pour le peuple français que d'avoir pris même le risque, s'il pense que c'est une hypothèse, qu'elle puisse arriver. Troisièmement, il va peut-être avoir besoin à un moment donné de parler aux électeurs de gauche, parce qu'il parle des extrêmes dans sa tête, c'est la droite et la gauche. Il est en train de les heurter, c'est-à-dire qu'il choque beaucoup de gens aujourd'hui qui se disent qu'ils ne votent absolument pas pour des partis qui peuvent en venir à la guerre civile et qui auront encore plus de mal après ce type de phrase à mettre pour lui un bulletin de vote pour faire barrage et voter en faveur de la majorité quand le temps sera venu. Donc c'est une stratégie qui est extrêmement bizarre. Quatrièmement, Emmanuel Macron défend toujours le fait qu'il est le camp de la raison face au chaos. Et il utilise le même type de mots que ceux qui aujourd'hui sont les plus extrêmes. Donc il se met sur le même registre, qui n'est absolument pas un registre rassurant. J'en reviens à ce que je disais au début, rien ne va dans cette déclaration.
J'insiste, il nous a bien dit aujourd'hui, c'est moi ou le chaos.
Oui, C'est marrant, ça résonne d'ailleurs dans nos oreilles. On a déjà entendu cette phrase en 2017, en 2019, en 2022, en 2024, il y a 3 semaines, et il recommence. Sauf que ça ne marche plus. C'est une stratégie qui est usuelle pour le chef de l'État. Il est rentré dans un duel qu'il a mis en scène avec le Rassemblement national. C'était très utile, ça permettait d'asphyxier les deux anciens partis de gouvernement, à droite et à gauche. Et une fois que ce duel se concrétise, Emmanuel Macron fait toujours la même chose, il dramatise l'enjeu en disant « c'est moi ou la lèpre populiste, c'est moi ou les vents mauvais », c'est ce qu'il nous a dit aux dernières européennes. Le problème, c'est que cette stratégie ne marche plus. Elle marchait totalement en 2017, elle marchait un peu moins en 2022, mais elle continue de marcher. Elle n'a pas du tout marché aux dernières européennes. La preuve, Jordan Bardella est arrivé très largement en tête. Mais très largement en tête, il a même fait le double du score de la liste du parti présidentiel.
Oui.
Donc, le chef de l'État a répété cette menace de guerre civile dont on ne voit pas très bien les frontières, quelles seraient en fait, par quoi elle se matérialiserait, donne un peu l'impression d'un enfant qui a cassé son jouet et qui veut pas, qui ne le réalise pas et qui continue avec son vieille stratégie sans se rendre compte qu'elle ne marche plus, qu'elle est épuisée et cette fameuse phrase qu'il avait dit « c'est moi ou le chaos », le problème c'est qu'il y a un bilan depuis. Vous avez les 1 000 milliards de dettes en plus, les 210 milliards de déficit de balance commerciale, vous avez des records en termes d'insécurité et d'immigration légale et illégale. Voilà, donc Emmanuel Macron semble être... vraiment dans un sens unique et de ne pas vouloir le reconnaître.
Alexis Izard, est-ce que cette stratégie du chaos utilisée par le président de la République n'est pas dangereuse et surtout un aveu de faiblesse ?
Non, moi honnêtement, si le président de la République disait ça, c'est que peut-être qu'il le craint. Mais moi, ce que je veux dire simplement aux Français, c'est de se rassurer. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais le 30 juin et le 7 juillet, ce sera des élections démocratiques. Peut-être, encore une fois, que le résultat ne me plaira pas, peut-être qu'il ne plaira pas à une partie des Français, mais ce sera un résultat électoral démocratique. Et là-dessus, les Français devront faire avec, parce que les Français se seront prononcés. Maintenant, c'est vrai que...
Donc là, vous nous renvoyez à nous, aussi, électeurs, à notre responsabilité, bien compris.
À nous, les électeurs, parce qu'on en fait tous partie ici. Mais je dois le dire quand même, c'est que je rencontre beaucoup de monde pendant cette campagne électorale. Évidemment, je fais du porte-à-porte tous les jours, toute la journée. Et il y a beaucoup de Français qui ont peur. Beaucoup de Français qui ont peur de ce que politiquement sera l'Assemblée nationale après ce prochain scrutin. Et de ce qui se passera dans les rues. Mais pour ceux
c'est pas
qui
ce qu'ils disent dans les enquêtes d'opinion, hein, puisque pour l'instant, ils classent troisième.
Réellement, je croise évidemment beaucoup de monde en ce moment. Et c'est vrai que c'est une crainte. Mais moi, je veux dire aux Français... l'intégralité d'entre nous sommes responsables, nous accepterons le choix démocratique et s'il ne plaît pas, il y aura d'autres échéances démocratiques qui arriveront par la suite. Il faut un discours de rationalité.
Vous voulez réagir, Sylvain Bourbon ?
Ben oui, parce que j'entends au fond des éléments qui viennent un peu confirmer l'hypothèse que je faisais. C'est-à-dire, oui. J'entends qu'on dit, ben voilà, les résultats ne nous plairont peut-être pas, mais nous devrons composer. C'est-à-dire, au fond, puisqu'Emmanuel Macron a dit et répété qu'il est hors de question pour lui de démissionner, ce qui est une possibilité dès lors qu'il n'y a pas de majorité au Parlement, oui. Par exemple. Mais si il manque quelques voix simplement au Rassemblement national pour constituer une majorité, oui. On se demande quelle va être l'attitude du président de la République. On se demande s'il n'est pas en train de préparer les esprits à un discours du type « Écoutez, il n'y a pas de majorité, mais les Français ont quand même assez largement donné des sièges à ce parti, donc c'est plutôt ce parti qui va devoir gouverner, oui. Et vous pouvez compter sur moi pour jouer mon rôle. »
Le RN a dit qu'il ne l'assumerait pas. Bardella ne veut qu'une majorité absolue. Parce qu'il ne veut pas gouverner.
On attendra la confirmation de Mme Le Pen, quand même.
De toute façon.
Mais ce que vous venez de dire est factuellement vrai. On laisse terminer Sylvain Bourmeau, s'il vous plaît.
On verra, mais en tous les cas, je vois dans vos éléments de discours ce soir de quoi conforter l'hypothèse qui est la mienne, une façon de préparer pour le président de la République les esprits quant à la possibilité pour lui de partager, au fond, le pouvoir avec le Rassemblement national. Et je dois dire que je suis assez inquiet au regard des précédents dans l'histoire française de ce type de situation. Voilà, enfin, je veux dire, c'était quand la dernière fois qu'on a eu l'extrême droite au pouvoir ? C'était quand ?
1940.
On l'a jamais eu depuis. Non. 1940. Donc, si ça se passe ça, c'est pas juste. On peut pas juste dire, ben oui, c'est une élection démocratique, faut respecter. Non. Enfin, je veux dire, ce serait un séisme, un événement historique considérable dans l'histoire de France.
Oui.
On peut s'accorder là-dessus.
Bien sûr.
Donc, voilà, chacun en tire ses responsabilités comme électeur et comme citoyen.
Donc il sait très bien ce qu'il fait, il sait très bien ce qu'il dit en ce moment, notre président de la République.
Oui, et il va aussi à contre-courant de ce que lui demandent tous ses proches à peu près aujourd'hui, c'est-à-dire de ralentir.
Pardon Amandine, il n'a plus aucun espoir de gagner, on en est convaincu.
En fait, ce qui m'échappe, c'est
on est tous perturbés.
Il a pu en avoir un au début, ou qu'il ait imaginé par exemple que la gauche ne s'unisse pas, ou que... Je ne saisis pas à quel moment le président a pu voir une fenêtre. Et aujourd'hui, au vu des sondages, dans le sondage Elab, ils sont à 20%. Oui. La gauche à 27, le RN à 36. Donc, la marche paraît extrêmement haute. Et quand on parle aux uns et aux autres, tout le monde nous dit aujourd'hui qu'ils pensent lucidement qu'ils vont dans le mur. Donc partant de là, pourquoi toutes ces interventions d'Emmanuel Macron, en plus en contradiction totale avec la campagne de Gabriel Attal aussi, qui lui se place sur un plan de élisez-moi Premier ministre et qui essaie de faire une campagne plus pragmatique, moins dans les arguments moraux que ce que fait Emmanuel Macron. Et en parallèle, on a des incursions sans cesse d'Emmanuel Macron. On a la lettre, on a le podcast qui viennent souvent contredire ce que les uns et les autres disent par ailleurs dans sa majorité. Donc c'est absolument illisible, électeur.
Alexis Isard.
Oui, je vais vous donner un message d'optimisme. Attention tout de même aux sondages qui sont présentés juste ici, parce que aujourd'hui, on n'est pas face aux élections européennes où effectivement les sondages ont été très précis. Et c'est d'ailleurs assez historique la manière dont ils ont été précis. Aujourd'hui, on est sur 577 élections différentes. Et là, quand je vois ces sondages-là, moi, je pense à l'Essonne, mon département, où, par exemple, on a des candidats qui ont refusé l'accord.
On ne peut pas parler des circonscriptions, ça nous met dans une situation infernale avec l'ARCOM, je vous le dis tout de suite.
On a autant
dire les choses telles qu'elles sont.
On a quelque part sur notre département.
Je précise à nos téléspectateurs, l'organisme de régulation
dont nous dépendons. Expliquer mon propos. On a des zones en Essonne où des candidats refusant le parti de Jean-Luc Mélenchon partent en dissidence et laissent un candidat insoumis face à eux. Face à ces candidats-là, nous, on n'a pas mis de candidat. Et donc, votre sondage ne prend pas ça en partie. Par exemple, moi, sur ma circonscription, le parti des Républicains, sur ma zone, sur mon territoire, le parti des Républicains a décidé de ne pas envoyer de candidat pour que le camp républicain puisse l'emporter. Ici, vous avez 10% pour les Républicains. Donc, ça ne transcrit pas réellement ce qui se passe sur les territoires. Moi, ce que je dis aux Français, c'est dès le premier tour, il faudra choisir le camp de la rationalité et de la responsabilité. On en a présenté avant la publicité, avant la page de publicité, ce qu'était le programme du Rassemblement national. Il n'y a plus rien dedans. On a pu voir dans d'autres moments sur votre chaîne et sur les autres le programme du Nouveau Front Populaire qui promet à peu près tout et n'importe quoi. Il ne se passera rien. Je crois qu'il y a encore un espace.
Les questions qu'on se pose.
Oui, vos propos ne contredisent pas du tout ce que venait de dire Amandine. C'est-à-dire qu'en effet, il faut être prudent avec les projections. Mais ça n'enlève rien que le fait qu'Emmanuel Macron, qui était celui qui était sur toutes vos affiches de campagne en 2022, il a totalement disparu et est devenu un énorme boulet. D'ailleurs, tous les candidats de La République En Marche le disent. C'est-à-dire que s'ils veulent bien aller au-devant d'une bataille qui s'annonce très compliquée pour certains d'entre eux, ils ne veulent pas du tout se faire harakiri avec la tête du chef de l'État sur les affiches ou sur les tracts.
Votre affiche, vous, le président ?
Je ne l'ai pas. Et je ne partagerai, pas la notion de boulet, mais ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, c'est assez exceptionnel, mais on est sur une élection.
On va rebondir juste sur le terme de guerre civile, puisqu'on en parlait.
Bah oui.
Vous ne le reprenez pas à votre compte ?
Non.
On est aujourd'hui
sur une élection assez exceptionnelle où on va choisir un Premier ministre. Donc nous, on a choisi de faire campagne pour Gabriel Attal. Et d'ailleurs, on va donner une légitimité à Gabriel Attal sur cette élection-là.
Si Gabriel Attal si vous arrivez à avoir une majorité et que Gabriel Attal se réinstalle au poste de Matignon, il sera sous les ordres du chef de l'État.
Il aura une légitimité qui sera forte. Les Français l'auront choisi.
D'accord, donc vous jouez plutôt Gabriel Attal contre Emmanuel Macron.
Moi, je crois en Gabriel Attal, en ses capacités à continuer les chantiers qu'il a entrepris. Et d'ailleurs, on le voit là avec le Big Bang de l'autorité qui est une mauvaise copie du choc des savoirs de Gabriel Attal. Il a en retiré les mesures qui étaient intéressantes dedans, il a rajouté quelques petites paillettes.
Donc encore une fois, vous soulignez la complémentarité ou la possibilité de travailler avec le Rassemblement
National. Je souligne que tout
national.
A disparu dans le programme du Rassemblement National. Tout a disparu. Tout le concret de ce qui nous envoyait à l'Assemblée Nationale a disparu.
Enfin, ils veulent encore supprimer le droit du sol.
Oui, mais tout ce qui fonctionne...
En fait, en vous écoutant et dans cette émission, depuis le début, tout à l'heure, je me dis quand même, on est rentré dans l'après-Macron, non, Sylvain Bourmeau ? Est-ce qu'on n'est pas déjà rentré là-dedans ?
Alors, écoutez, moi, je crois que la minute qui a suivi l'annonce de la dissolution, j'ai tweeté que Emmanuel Macron s'était auto-dissous. C'est vraiment la lecture que j'en ai fait immédiatement. Je pense que sa légitimité était déjà très, très affaiblie. Alors, son camp peut continuer d'être dans le déni. Jusqu'au dernier jour, ils annonçaient des scores européennes 4 ou 5 points supérieurs à ce que les sondages disaient et ce qui s'est avéré le jour du vote. Donc, ils sont toujours dans cette attitude de déni. Je voulais dire un mot sur l'argument moral. Vous disiez, il est dans l'argument moral. Au fond, oui et non, parce que il est dans l'argument moral, un argument moral qui s'auto-annule. Parce que quand il parle des extrêmes, il ne peut pas mobiliser l'argument moral de la même façon pour chacun des deux camps. Sinon, il n'y aura pas d'effet, cet argument, en fait.
Oui, non, mais d'autant qu'il a toujours dit que l'argument moral était absurde. Qu'il oui, fallait pas l'utiliser.
Mais par ailleurs, il est inefficace s'il continue à parler des extrêmes. Parce qu'à un moment donné, il va bien falloir choisir dans les secondes tours, en fait, ici et là.